des éoliennes à ce propos-là. C'est effectivement un sujet tout à fait important. On va revenir en arrière dans l'histoire de l'humanité, mais on va aller en avant dans l'histoire des Garrigues pour entendre parler d'un projet d'atelier de recherche de préhistoire en Garrigues, donc Luc Jalot, Société languedocienne de préhistoire, Thierry Elignan, communauté de communes, Céran Pixelou qui nous accueille aujourd'hui, vont nous présenter ce qui n'est pas un retour d'expérience, mais ce qui est un projet, mais bâti sur l'existence d'un patrimoine extraordinairement riche et à une hauteur de richesse qu'on ne soupçonne pas. Alors, il faut que tu prennes celui-là parce que je crois que celui-là, il est là.
Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais vous lire le texte parce qu'en 10 minutes, j'ai peur de ne pas arriver à tout caser sur plusieurs millénaires d'histoire. Je suis ici, je suppose. Donc, on va passer ça. Voilà. La région du Pic-Saint-Loup, des basses Cévennes, notamment autour de Ganges, a très tôt attiré les amateurs d'histoire ancienne et de géologie. En 1850, Adrien Jean-Jean publie « L'homme et les animaux dans les basses Cévennes », où la distinction entre les différentes périodes de la préhistoire est clairement reconnue d'après ses fouilles. Alors, vous voyez ici une illustration de cette époque glorieuse. En 1900, paraissent deux ouvrages. L'héros au temps préhistorique, de Casali de Fondus, et l'arrondissement du Zès avant l'histoire, de Paul Raymond. Le premier réalise sans doute l'une des plus remarquables contributions à la préhistoire récente du Languedoc. Les recherches de ces deux grands préhistoriens, des Garrigues de l'Hérault et du Gard, font écho dans les colloques internationaux de l'époque. Un demi-siècle plus tard, en 1948, Maurice Louis publie « La préhistoire du Languedoc méditerranéen et du Roussillon », il dresse un tableau comparatif des principales cultures néolithiques, fortement influencées par le déterminisme géographique. La richesse préhistorique des Garrigues du Gard et de l'Hérault, des gorges du Gardon et du Pic-Saint-Loup font autorité sur le plan national et international. Vous voyez ici une illustration de l'ouvrage de Casali de Fondus qui est paru en 1900. Les sites. Alors là, il doit y avoir une erreur dans les. Excusez-moi, on n'a pas regardé. Voilà. Alors voici une chronologie générale des temps préhistoriques. Donc pour vous remettre en mémoire les différentes phases. Donc on a l'homme de Néandertal en bas, plutôt moins le pithécanthrope en bas, donc c'est l'époque très très ancienne, vers 1,5 million d'années d'occupation de nos territoires. Vers 100 000 ans, l'homme de Néandertal. Vers 30 000 ans, l'homme de Cro-Magnon. Et toute cette période entre 1,5 million d'années et 30 000 ans avant Jésus-Christ s'appelle le paléolithique, avec trois phases, inférieur, moyen et supérieur. Et vous voyez en haut le temps des agriculteurs et des éleveurs, le néolithique, qui dure très peu de temps, et puis l'âge du fer, la période gallo-romaine, c'est le tout petit trait, et le Moyen-Âge et les temps modernes, le tout petit trait au-dessus. Donc ça vous donne, si vous voulez, la durée relative des périodes de la préhistoire, hein, pour vous remettre ça en mémoire, avec évidemment la grande différence marquée par le réchauffement climatique. On passe d'une société de producteurs, de prédateurs, à une société de chasseurs, à une société d'agriculteurs, le monde dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui. Nous sommes toujours au néolithique, bien sûr. Alors, je vais essayer de retrouver. Voilà. Donc, les sites de la préhistoire très ancienne sont peu nombreux. Ils sont localisés principalement dans le Gard, en Garrigue de Nîmes, en Costière, dans les Garrigues de Montpellier, ainsi que autour de Saint-Aunès, ainsi que dans les basses Cévennes autour de Saint-Hippolyte-du-Fort et d'Alès. On en connaît aussi dans la vallée de l'Hérault. Et c'est près de Saint-Martin-de-Londres que s'ouvre le plus célèbre d'entre eux, la grotte de l'Ortus. Localisée sur la commune de Vafonès, elle perce la falaise qui borde le plateau du même nom, dominant largement la combe de Fombétou et souvent sur la plaine littorale. Vous voyez ici une reconstitution des paysages du paléolithique moyen, et puis ici une reconstitution de la grotte de l'Ortus, son occupation des zones orientales et le type d'outillage des bifaces que l'on trouvait à cette époque-là. Plus tard, au paléolithique supérieur, les gisements sont identifiés dans la plaine de Vistrinque, dans les gorges du Gardon, aux environs de Remoulins, Il y a un gisement très célèbre, c'est Fongrasse, à Verpont-du-Gard, qui constitue l'un des rares habitats de plein air structurés du midi de la France. Il est d'époque magdalénienne, il fut occupé 17 000 ans avant notre ère. Cette gravure est contemporaine de cette phase magdalénienne. C'est la gravure de la grotte de la Vache à la Roque, qui est l'une des rares représentations artistiques du paléolithique. Il y en a d'autres, on les connaît dans les gorges du Gardon, la Baume-la-Trogne par exemple. Mais les grottes à cette époque ne sont pas occupées par l'homme de manière pérenne. Ce sont uniquement des habitats temporaires, les habitats permanents se situant dans les zones basses ou à proximité des rivières. Alors je vais revenir un peu en arrière parce qu'il y avait... Voilà. Dans les années 60, est publié un ouvrage extrêmement important qui s'appelle « L'héros au temps préhistorique », qui est publié par Jean Arnal, dont vous voyez ici... le portrait, qui est un préhistorien amateur qui habite à Saint-Mathieu-de-Tréviers et qui va mettre en place les principales étapes de la préhistoire récente de notre région en faisant découvrir la richesse des stations préhistoriques dans la région de Ganges, dans la région de Saint-Martin-de-Londres, de Nîmes, d'Alès. Parmi ces vestiges extrêmement importants de la préhistoire, là, on connaît les dolmens. Alors, vous avez ici le dolmen du Lamalou, dans la commune de Rouet, donc, qui fait partie justement de la communauté de communes qui nous intéresse ici. Et vous voyez que c'est un très grand monument, l'un des mieux conservés du midi de la France. Vous voyez en haut à droite la chambre, c'est le couloir qui mène à la chambre sépulcrale. À gauche, un poignard en silex qui provient de ce dolmen. Les dolmens sont très nombreux dans le secteur des Garrigues, du Gard et de l'Hérault. On en compte plusieurs centaines. Ce sont des monuments plus ou moins bien conservés. Celui-là est particulièrement bien conservé. Vous voyez ici son tertre de terre avec sa chambre. Il est situé sur une propriété privée. Il a été restauré dans les années 80, mais il était en très bon état. Et il mériterait un aménagement spécifique pour le public. Alors ces dolmens sont très nombreux, ces grands dolmens sont très nombreux sur le cause de l'Ortus. On en trouve jusque dans le cause de Mélas et jusque sur le cause de Mina. Parmi les vestiges de la préhistoire récente, on doit signaler une attention toute particulière pour les villages, hein, donc les villages de type Cambous. Vous voyez ici un plan du village de Cambous à droite, avec une reconstitution de la maison préhistorique telle qu'on peut l'imaginer à partir des fouilles archéologiques, un poignard en cuivre qui provient de ce site, car cette période de la préhistoire, donc la préhistoire récente, autour de 3000 à 2500 ans avant notre ère, appelée le néolithique final, a livré de nombreux vestiges de villages. Et ces villages préhistoriques, qui sont parmi les plus anciens villages d'Europe, et en tout cas les mieux conservés d'Europe occidentale, sont parsèment les Garrigues de Montpellier, les Petits Causses de l'Hérault, ainsi que les Garrigues de Lussan, les Garrigues de Nîmes, et on les trouve par dizaines. On en compte environ 200 à 250 répertoriés à l'heure actuelle, en sachant qu'il y en a une vingtaine seulement qui ont été fouillés ou explorés de manière partielle. Donc ces villages vivent des maisons allongées. Rien que sur le secteur Frouzet, qui est là où nous sommes ici, on en a répertorié environ 4 ou 5, hein, on n'est pas sûr du nombre. Vous savez que les vestiges de la préhistoire récente sont très nombreux dans nos garrigues. Ils comptent parmi les vestiges les mieux conservés de la préhistoire occidentale. Et les secteurs des garrigues montrent l'une des plus fortes densités d'Europe occidentale en vestiges de cette époque. Alors, le hameau du Frouzet est au centre, par exemple, d'un dispositif extrêmement important où on va trouver à vue, hein, à quelques dizaines de mètres les uns des autres, des dolmens, des villages préhistoriques, des tumulus gaulois de l'âge du fer, etc. Oui, oui, où on est, voilà, où on est, au Frouzet. Et OK, là, juste à l'entrée du hameau sur la route, dans le carrefour, on compte une vingtaine de monuments préhistoriques. Vous voyez, c'est très dense. Alors, ces villages présentent un intérêt scientifique certain. Vous voyez ici les fouilles archéologiques du village de Boussargues, qui est sur la commune d'Argelier. Et à droite, la reconstitution d'une maison préhistorique a été fouillée ces dernières années à Saint-Gély-du-Fesc, entre Saint-Martin-de-Londres et Montpellier, et qui a livré des vestiges très bien conservés. On a pu reconstituer l'organisation interne de l'habitat. Alors, Un mot pour dire que le village de Cambrousse, est à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, est à l'heure actuelle le seul site qui fait l'objet d'une gestion régulière, avec ouverture au public, guide, animation sur place. Alors les recherches archéologiques ont essentiellement porté ces dernières années sur la fouille des villages en pierre sèche. Celles-ci ont permis d'en constituer le mode de vie des agro-pasteurs néolithiques. Les études actuelles s'orientent vers la restitution de l'économie préhistorique et de l'impact des paysans sur leur milieu. Les études sur les interactions société-milieu constituent aujourd'hui l'armature des recherches interdisciplinaires. Les garrigues du Gard et de l'Hérault sont un peu en perte de vitesse, néanmoins, concernant l'implication des chercheurs, car les fouilles se polarisent sur les zones périurbaines, les acs, les percées des voies ferrées et routières, là où les menaces de destruction se font les plus pressantes. À travers une politique de sensibilisation, le projet actuel sur le territoire de la communauté des communes s'inscrit dans une perspective de relance des recherches à caractère scientifique. Il se veut une réponse à l'intérêt du public pour l'histoire des paysages des garrigues et de leur peuplement. Il se veut aussi une réponse face à la dégradation programmée des vestiges de ce passé lointain, vestiges menacés par l'étalement erratique du milieu urbain, une action violente de l'agriculture extensive sur les paysages fossiles, et le développement programmé d'usines photovoltaïques ou d'usines éoliennes à lourd impact paysager. Donc je vais laisser, après cette introduction, je vais laisser donc la parole à Thierry qui va vous expliquer donc, les tenants et les aboutissants de ce projet.
Donc, bonjour, moi c'est Thierry Alignan, je travaille à la communauté de communes Serran-Pixanou, donc qui a été à l'origine d'un projet donc de création d'un atelier de recherche préhistorique donc, qui est en cours de construction. Donc, comme vous l'a exposé Luc Jalot, le territoire des Garrigues regorge de sites préhistoriques. Donc, je vais pas revenir sur ce qui a été dit. Particulièrement le territoire de la communauté de communes Serran-Pixanou qui présente une importante concentration de vestiges dont l'état de préservation est unique au niveau européen. Donc, outre le village de Cambrousse, bon, toute la vallée de la Bège, Côte de l'Ortus, et secteurs Viol-le-Fort, Viol-en-Laval sont fortement concernés par ces sites-là. Et donc, le territoire de la communauté de communes Serran-Pixanou se situe à ce niveau-là, donc autour de Saint-Martin-de-Lon, donc en plein cœur du territoire des Garrigues montpelliéraines. Donc à ces divers sites, il y a lieu d'ajouter une collection d'objets donc, qui sont constitués de poteries, d'outillages, de bijoux qui proviennent entre autres des fouilles du site de Cambrousse. Donc cette collection était depuis début des années 80 et jusqu'à la fin des années 90 exposée sur la commune de Viol-le-Fort, donc commune voisine à la commune sur laquelle se trouve le village de Cambrousse. Et malheureusement, le lieu dans lequel c'est différents objets, cette collection était présentée, a été vendue par la commune et les objets, donc la collection, n'a plus pu être présentée au public et risquait de disparaître. Donc compte tenu de l'urgence liée au déménagement de cette collection, la communauté de communes Serran-Pixanou a décidé de faire de cette opération la première de son action dans le domaine de l'archéologie. Et pour ce faire, elle a profité d'une initiative impulsée par la commune de Viol-le-Fort de réhabilitation de locaux anciens en cœur de village, donc au niveau du presbytère, donc on est vraiment au niveau du cœur du village, pour créer donc, ce qu'on appelait initialement un centre d'interprétation archéologique et qui s'appelle depuis quelques jours l'atelier Préhistoire en Garrigue. Hein, donc ça marque bien l'atelier, c'est un élément qui répond au double objectif qu'on a souhaité mettre en place. Donc là c'est mon deuxième élément. Donc c'est un lieu de travail pour les archéologues au plus près des sites. Donc c'est vraiment un atelier de travail préhistoire pour marquer l'époque concernée et en garrigue pour être au cœur des garrigues, pour se bien définir le secteur géographique. Et donc le second objectif est évidemment de conserver la collection sur la commune, donc la commune de Viol-le-Fort sur le territoire de la communauté de communes, pour permettre au public à nouveau d'admirer ces objets et sur une présentation un peu plus, peut-être un peu plus cohérente que ce qu'elle était, on ne sera pas sur une simple présentation d'objets sous vitrine. Il y a vraiment une réelle logique que je vais vous exposer. Donc cet atelier donc, sera construit, donc, comme je vous disais, en cœur de village de Viol-le-Fort, au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Donc, je vous ai mis une vue externe du bâtiment pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, un point particulier concerne une campagne d'archéologie du bâti qui a été menée sur ce bâtiment. Ce n'était pas prévu initialement, mais vu qu'on avait assez peu de connaissances, le fort schistique était assez pauvre. L'architecte qui est en charge de ce projet, Étienne Léna, donc qui est partie d'un cabinet d'architecture qui est sur Grenoble, a proposé de faire une campagne d'archéologie du bâti préalable. Donc les élus de la communauté de communes ont reçu favorablement cette proposition. Et ça a permis ainsi de jouer le jeu d'une véritable vision durable du projet d'architecture. C'est-à-dire qu'au lieu d'un projet qui pouvait aller à l'encontre du lieu, on a permis, il a été possible de mettre en valeur et d'intégrer toutes les phases historiques qui ont marqué ce lieu. Voilà, donc c'est une petite aparté où on n'a pas simplement fait de la réhabilitation de bâtiment, on a essayé d'intégrer ce projet dans l'histoire du bâtiment. Alors ce bâtiment a une taille qui est somme toute modeste, puisqu'on ça représente à peu près une centaine de mètres carrés exploitables, et ça n'a vraiment pas été évident d'arriver à faire quelque chose de cohérent et de pertinent, mais donc notre architecte a su arriver à tirer le maximum des possibilités. Donc il y a trois espaces qui sont dégagés. Donc le premier, qui est la pièce principale d'exposition des collections, enfin je vous le détaillerai après. Un second qui est un espace dit de stockage, et un troisième qui est l'espace de travail des archéologues. Donc on va avoir au final, le public va rentrer par cette porte-là, on va remonter, en gros, on va remonter le temps le temps, voilà, depuis l'espace de... de traitement, voilà, depuis l'espace de présentation jusqu'à l'espace d'étude. Donc on va avoir une démarche assez intéressante et complètement différente de ce qu'on peut trouver dans un simple musée, enfin, simple musée entre guillemets, où on n'a que des objets présentés sous vitrine. Donc la première pièce qui peut se définir par ce que l'archéologue trouve et ce à quoi cela renvoie. Donc cette première pièce sera constituée, outre donc forcément de la banque d'accueil, de trois sous-ensembles. Donc le premier ensemble montrera la relation entre l'homme et ses outils. Donc il y a une représentation qui est faite à ce niveau-là, où on va essayer de montrer la relation qu'il y a entre l'homme et les outils, principalement fabriqués à partir d'ossements de moutons. Le second ensemble évoquera un sol de grotte, donc vous distinguez à ce niveau-là, pour montrer en fait l'utilisation que les hommes préhistoriques avaient de la grotte, des jarres qu'ils ont su fabriquer pour collecter l'eau qui percolait à travers les plafonds. Donc on va essayer de montrer cette relation. Ça se fera par opposition au village de Cambousse, parce que le site fonctionnera en complète symbiose avec le village de Cambousse, où Cambousse est plus l'utilisation de l'extérieur, et cet espace de présentation sera plus sur la vision de l'homme dans les grottes et l'utilisation qu'ils ont pu en avoir. Enfin, Luc donnera plus de détails que moi à ce niveau-là, si vous avez des questions. Et enfin, on aura un troisième ensemble qui présentera l'homme vis-à-vis du paysage, l'interaction de l'homme et le paysage, où notamment la stèle de Cazillac sera présentée. Et donc là, vous arrivez à peu près à distinguer à ce niveau-là une forme. Hein, vous la voyez, donc c'est plus l'évocation d'un poignard. Et à ce niveau-là, vous avez ce qui pourrait représenter certainement un œil, un deuxième œil, un nez et puis un front de sourcil. Voilà, donc cette stèle a été découverte en septembre 1990 par Gabriel Vignard sur la commune de Viol-le-Fort. Donc la deuxième pièce, donc c'est une pièce toute petite, qui peut se définir par ce que l'archéologue trouve et comment il le range. En fait, le principe est tout simple. C'est un espace de stockage. Alors, à double objectif, ce sera d'une part sur les parties hautes et basses, un espace de stockage, mais de travail pour les archéologues. Ça permettra de stocker du matériel en attente d'études ou en cours d'études. Ouais, ce sera vraiment ce qu'il peut y avoir sur les laboratoires non ouverts au public. Alors que là, ce site sera complètement ouvert au public. Et il y aura en partie centrale un espace de typé présentation. Donc cette petite pièce qui fait une une quinzaine de mètres carrés, sera vraiment l'interface, ça renforcera le lien entre le public qui va visiter et l'archéologue qui travaille. Parce que souvent, l'archéologie, enfin, ce que disait Luc, c'est plus une passion, un hobby, où on va fouiller pour découvrir des éléments, alors que c'est vraiment une notion scientifique derrière que le grand public n'a pas forcément intégré. Donc cette pièce sera un peu l'articulation entre la vision qu'a le public de l'archéologue et ce que l'archéologue est concrètement. Et enfin, on passera dans la dernière pièce, qui est donc l'espace de travail, qui représente à peu près la moitié du bâtiment, où le public aura une possibilité de pénétration, mais un peu moins complet que sur le reste du bâtiment. Parce que le but de ce lieu, c'est vraiment de mettre en relation le public et l'archéologue, d'arriver à générer des échanges, en plus du lieu de travail pour les archéologues, au plus près des sites de fouilles. Donc il y aura notamment présenté sous forme d'une espèce de bibliothèque, un référentiel d'objets, et puis bon, d'autres espaces de présentation. Voilà, je vous remercie.